Première partie, chapitre 2. Il ne repartit pas. Il commençait de sentir, malgré lui, l'attrait de ce monde italien qui l'irritait. Pour le moment, il s'isola. Il flâna dans Rome et autour. La lumière romaine, les jardins suspendus, la campagne, que ceint comme une écharpe d'or la mer ensoleillée, lui révélèrent peu à peu le secret de la terre enchantée. Il s'était juré de ne pas faire un pas pour aller voir ces monuments morts qu'il affectait de dédaigner. Il disait en bougonnant qu'il attendrait qu'ils vinssent le trouver. Ils vinrent, il les rencontra, au hasard de ses promenades, dans la ville au sol onduleux. Il vit, sans l'avoir cherché, le forum rouge au soleil couchant et les arches à demi écroulées du Palatin, au fond desquelles l'azur profond se creuse, gouffre de lumière bleue. Il erra dans la campagne immense, près du Tibre rougeâtre, gras de boue, comme de la terre qui marche, et le long des aqueducs ruinés, gigantesques vertèbres de monstres antédiluviens. D'épaisses masses de nuées noires roulaient dans le ciel bleu. Des paysans à cheval poussaient à coups de gaule, à travers le désert, des troupeaux de grands bœufs gris-perles à longues cornes. Et sur la voie antique, droite, poussiéreuse et nue, des pâtres chèvres-pieds, les cuisses recouvertes de peau velue, cheminaient en silence, avec des théories de petits ânes et d'anons. Au fond de l'horizon, la chaîne de la Sabine, aux lignes olympiennes, déroulait ses collines, et sur l'autre bord de la coupe du ciel, les vieux murs de la ville, la façade de Saint-Jean, surmontée de statues qui dansaient, profilaient leurs noires silhouettes. Silence. Soleil de feu. Le vent passait sur la plaine. Sur une statue sans tête, aux bras emmaillotés, battue par les flots d'herbe, un lézard, dont le cœur paisible palpitait, s'absorbait immobile dans son repas de lumière. Et Christophe, la tête bourdonnante de soleil, et quelquefois aussi devint des Castelli, près du marbre brisé, assis sur le sol noir, souriant, somnolent et baigné par l'oubli, buvait la force calme et violente de Rome. Jusqu'à la nuit tombante, alors, le cœur étreint d'angoisse, il fuyait la solitude funèbre où la lumière tragique s'engloutissait. Ô terre, terre ardente, terre passionnée et muette! Sous ta paix fiévreuse, j'entends sonner encore les trompettes des légions. Quelle fureur de vie gronde dans ta poitrine! Quel désir tu réveilles! Christophe trouva des âmes où brûlaient des tisons du feu séculaire. Sous la poussière des morts, il s'était conservé. On eût pensé que ce feu se fût éteint avec les yeux de Mazzini. Il revivait. Le même, bien peu voulait le voir. Il troublait la quiétude de ceux qui dormaient. C'était une lumière claire et brutale. Ceux qui la portaient, de jeunes hommes, le plus âgé n'avait pas 35 ans, de libres intellectuels qui différaient entre eux de tempérament, d'éducation, d'opinion et de foi, étaient unis dans le même culte pour cette flamme de la nouvelle vie. Les étiquettes de parti, les systèmes de pensée ne comptaient point pour eux. La grande affaire était de penser avec courage. Être franc et osé, ils secouaient rudement le sommeil de leur race. Après la résurrection politique de l'Italie, réveillée de la mort à l'appel des héros, après sa toute récente résurrection économique, ils avaient entrepris d'arracher du tombeau la pensée italienne. Ils souffraient, comme d'une injure, de l'atonie paresseuse et peureuse de l'élite, de sa lâcheté d'esprit, de sa verbolatrie. Leur voix retentissait dans le brouillard de rhétorique et de servitude morale accumulée depuis des siècles sur l'âme de la patrie. Ils y soufflaient leur réalisme impitoyable et leur intransigeante loyauté. Ils avaient la passion de l'intelligence claire que suit l'action énergique. Capables, à l'occasion, de sacrifier les préférences de leur raison personnelle au devoir de discipline que la vie nationale impose à l'individu, ils réservaient pourtant leur autel le plus haut et leurs plus pures ardeurs à la vérité. Il l'aimait d'un cœur fougueux et pieux. Insulté par ses adversaires, diffamé, menacé, un chef de ces jeunes hommes répondait avec une calme grandeur « Respectez la vérité, je vous parle à cœur ouvert, libre de toute rancune. J'oublie le mal que j'ai reçu de vous et celui que je puis vous avoir fait. Soyez vrai, il n'est pas de conscience, il n'est pas de hauteur de vie, il n'est pas de capacité de sacrifice, il n'est pas de noblesse, là où n'existe pas un religieux, rigide et rigoureux respect de la vérité. Exercez-vous dans ce devoir difficile. La fausseté corrompt celui qui en use, avant de vaincre celui contre qui on en use. Que vous y gagniez le succès immédiat, qu'importe. Les racines de votre âme seront suspendues dans le vide, sur le sol rongé par le mensonge. Je ne vous parle plus en adversaire. Nous sommes sur un terrain supérieur à nos dissentiments, même si dans votre bouche, votre passion se pare du nom de patrie. Il est quelque chose de plus grand que la patrie, c'est la conscience humaine. Il est des lois que vous ne devez pas violer, sous peine d'être de mauvais Italiens. Vous n'avez plus devant vous qu'un homme qui cherche la vérité. Vous devez entendre son cri. Vous n'avez plus devant vous qu'un homme qui désire ardemment vous voir grands et purs et travailler avec vous. Car, que vous le veuillez ou non, nous travaillons tous en commun avec tous ceux dans le monde qui travaillent avec vérité. Ce qui sortira de nous, et nous ne pouvons le prévoir, portera notre marque commune si nous avons agi avec vérité. L'essence de l'homme est là, de sa merveilleuse faculté de chercher la vérité, de la voir, de l'aimer et de s'y sacrifier. Vérité qui répand sur ceux qui te possèdent le souffle magique de ta puissante santé. La première fois que Christophe entendit ces paroles, elles lui semblèrent l'écho de sa propre voix, et il sentit que ces hommes et lui étaient frères. Les hasards de la lutte des peuples et des idées pouvaient les jeter un jour les uns contre les autres dans la mêlée, mais amis ou ennemis, ils étaient, ils seraient toujours de la même famille humaine. Ils le savaient comme lui, ils le savaient avant lui. Il était connu d'eux avant qu'il l'ait connu, car ils étaient déjà les amis d'Olivier. Christophe découvrit que les œuvres de son ami, quelques volumes de vers, des essais de critique, qui n'étaient à Paris lus que d'un petit nombre, avaient été traduites par ces Italiens et leur étaient familières. Plus tard, il devait découvrir les distances infranchissables qui séparaient ses âmes de celles d'Olivier. Dans leur façon de juger les autres, ils restaient uniquement Italiens, enracinés dans la pensée de leur race. De bonne foi, ils ne cherchaient dans les œuvres étrangères que ce que voulait y trouver leur instinct national. Souvent, ils n'en prenaient que ce qu'ils y avaient mis d'eux-mêmes à leur insu. Critiques médiocres et piètres psychologues, ils étaient trop entiers, pleins d'eux-mêmes et de leur passion, même quand ils étaient épris de la vérité. L'idéalisme italien ne sait pas s'oublier. Il ne s'intéresse point aux rêves impersonnels du Nord. Il ramène tout à soi, à ses désirs, à son orgueil de race qu'il transfigure. Consciemment ou non, il travaille toujours pour la Terza Roma. Il faut convenir que pendant des siècles, il ne s'est pas donné grand mal pour la réaliser. Ces beaux Italiens, bien taillés pour l'action, n'agissent que par passion et se lassent vite d'agir. Mais quand la passion souffle, elle les soulève plus haut que tous les autres peuples. On l'a vu par l'exemple de leur Risorgimento. C'était un de ces grands vents qui commençait à passer sur la jeunesse italienne de tous les partis, nationalistes, socialistes, néo-catholiques, libres idéalistes, tous italiens irréductibles, tous d'espoir et de vouloir, citoyens de la Rome impériale, reine de l'univers. Tout d'abord, Christophe ne remarqua que leur généreuse ardeur et les communes antipathies qui l'unissaient à eux. Ils ne pouvaient manquer de s'entendre avec lui dans le mépris de la société mondaine, à laquelle Christophe gardait rancune des préférences de Grazia. Il haïssait plus que lui cet esprit de prudence, cette apathie, ses compromis et ses arlequinades, ces choses dites à moitié, ces pensées amphibies, ce subtil balancement entre toutes les possibilités sans se décider pour aucune. Robustes autodidactes, qui s'étaient faits de toutes pièces et qui n'avaient pas eu les moyens ni le loisir de se donner le dernier coup de rabot, ils outraient volontiers leur rudesse naturelle et leur ton un peu âpre de contadini mal dégrossi. Ils voulaient être entendus, ils voulaient être combattus, tout plutôt que l'indifférence. Ils eussent, pour réveiller les énergies de leur race, consenti joyeusement à en être les premières victimes. En attendant, ils n'étaient pas aimés et ils ne faisaient rien pour l'être. Christophe eut peu de succès quand il voulut parler à Grazia de ses nouveaux amis. Ils étaient déplaisants à cette nature éprise de mesure et de paix. Il fallait bien reconnaître avec elle qu'ils avaient une façon de soutenir les meilleures causes, qui donnait envie parfois de s'en déclarer l'ennemi. Ils étaient ironiques et agressifs, d'une dureté de critique qui touchait à l'insulte, même avec des gens qu'ils ne voulaient point blesser. Ils étaient trop sûrs d'eux-mêmes, trop pressés de généraliser, d'affirmer brutalement. Arrivés à l'action publique, avant d'être arrivés à la maturité de leur développement, ils passaient d'un engouement à l'autre avec la même intolérance. Passionnément sincères, se donnant tout entier, sans rien économiser, ils étaient consumés par leur excès d'intellectualisme, par leur labeur précoce et forcené. Il n'est pas sain pour de jeunes pensées au sortir de la gousse de s'exposer au soleil cru. L'âme en reste brûlée. Rien ne se fait de fécond qu'avec le temps et le silence. Le temps et le silence leur avaient manqué. C'est le malheur de trop de talents italiens. L'action violente et hâtive est un alcool. L'intelligence qui y a goûté a peine ensuite à s'en déshabituer. Et sa croissance normale risque d'en rester faussée pour toujours. Christophe appréciait la fraîcheur acide de cette verte franchise, par contraste avec la fadeur des gens du juste milieu, des vie di mezzo, qui ont une peur éternelle de se compromettre et un subtil talent de ne dire ni oui ni non. Mais bientôt, il dut convenir que ces derniers, avec leur intelligence calme et courtoise, avaient aussi leur prix. L'état de perpétuel combat où vivaient ses amis était lassant. Christophe croyait de son devoir d'aller chez Grazia afin de les défendre. Il y allait parfois afin de les oublier. Sans doute, ils lui ressemblaient. Ils lui ressemblaient trop. Ils étaient aujourd'hui ce qu'il avait été à 20 ans. Et le cours de la vie ne se remonte pas. Au fond, Christophe savait bien qu'il avait dit adieu, pour son compte, à ses violences, et qu'il s'acheminait vers la paix, dont les yeux de Grazia semblaient tenir le secret. Pourquoi donc se révoltait-il contre elle? Ah, c'est qu'il eût voulu, par un égoïsme d'amour, être seul à en jouir. Il ne pouvait souffrir que Grazia en dispensât les bienfaits à tout venant, qu'elle fût prodigue envers tous de son charmant accueil. Elle lisait en lui, et, avec son aimable franchise, elle lui dit un jour, « Vous m'en voulez d'être comme je suis? Il ne faut pas m'idéaliser, mon ami. Je suis une femme. Je ne vaux pas mieux qu'une autre. Je ne cherche pas le monde, mais j'avoue qu'il m'est agréable. De même que j'ai plaisir à aller quelquefois à des théâtres pas très bons, à lire des livres insignifiants, que vous dédaignez, mais qui me reposent et qui m'amusent. Je ne puis me refuser à rien. Comment pouvez-vous supporter ces imbéciles? La vie m'a enseigné à n'être pas difficile. On ne doit pas trop lui demander. C'est déjà beaucoup, je vous assure, quand on a affaire à de braves gens, pas méchants, assez bons. Naturellement, à condition de ne rien attendre d'eux. Je sais bien que si j'en avais besoin, je n'en trouverais plus beaucoup. Pourtant, ils me sont attachés, et quand je rencontre un peu de réelle affection, je fais bon marché du reste. Vous m'en voulez, n'est-ce pas? Pardonnez-moi d'être médiocre. Je sais faire du moins la différence de ce qu'il y a de meilleur et de moins bon en moi, et ce qui est avec vous, c'est le meilleur. Je voudrais tout, dit-il, d'un ton boudeur. Il sentait bien pourtant qu'elle disait vrai. Il était si sûr de son affection qu'après avoir hésité pendant des semaines, un jour il lui demanda « Est-ce que vous ne voudrez jamais ?»« Quoi donc ? Être à moi ?» Il se reprit « Que je sois à vous ?» Elle sourit. « Mais vous êtes à moi, mon ami. » Vous savez bien ce que je veux dire. Elle était un peu troublée, mais elle lui prit les mains et le regarda franchement. « Non, mon ami, dit-elle avec tendresse. » Il ne put parler. Elle vit qu'il était affligé. « Pardon, je vous fais de la peine. Je savais que vous me diriez cela. Il faut nous parler en toute vérité, comme de bons amis. »« Des amis, dit-il tristement. Rien de plus ?»« Ingrat. Que voulez-vous de plus ? M'épouser ? Vous souvenez-vous d'autrefois, lorsque vous n'aviez Dieu que pour ma belle cousine ? J'étais triste alors que vous ne compreniez pas ce que je sentais pour vous. Toute notre vie aurait pu être changée. Maintenant, je pense que c'est mieux ainsi. C'est mieux que nous n'ayons pas exposé notre amitié à l'épreuve de la vie en commun, de cette vie quotidienne où ce qu'il y a de plus pur finit par s'avilir. Vous dites cela parce que vous m'aimez moins. Oh non, je vous aime toujours autant. Ah, c'est la première fois que vous me le dites. Il ne faut plus qu'il y ait rien de caché entre nous. Voyez-vous, je ne crois plus beaucoup au mariage. Le mien, je le sais, n'est pas un exemple suffisant. Mais j'ai réfléchi et regardé autour de moi. Ils sont rares, les mariages heureux. C'est un peu contre nature. On ne peut enchaîner ensemble les volontés de deux êtres qu'en mutilant l'une d'elles, sinon toutes les deux. Et ce ne sont même point là, peut-être, des souffrances où l'âme est profit à être trempée. Ah, dit-il, j'y vois une si belle chose, au contraire, l'union de deux sacrifices, deux âmes mêlées en une. Une belle chose dans votre rêve. En réalité, vous souffririez plus que qui que ce soit. Quoi, vous croyez que je ne pourrai jamais avoir une femme, une famille, des enfants? Ne me dites pas cela. Je les aimerais tant. Vous ne croyez pas ce bonheur possible pour moi? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Peut-être avec une bonne femme, pas très intelligente, pas très belle, qui vous serait dévouée et ne vous comprendrait pas. Que vous êtes mauvaise. Mais vous avez tort de vous moquer. C'est bon. Une bonne femme, même qui n'a pas d'esprit. Je crois bien. Voulez-vous que je vous en trouve une? Taisez-vous, je vous prie. Vous me percez le cœur. Comment pouvez-vous parler ainsi? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous ne m'aimez donc pas du tout? Pas du tout, pour penser à me marier avec une autre? Mais c'est au contraire parce que je vous aime, que je serai heureuse de faire ce qui pourrait vous rendre heureux. Alors, si c'est vrai? Non, non, n'y revenez pas. Je vous dis que ce serait votre malheur. Ne vous inquiétez pas de moi. Je jure d'être heureux, mais dites la vérité. Vous croyez que vous, vous seriez malheureuse avec moi? Oh, malheureuse? Mon ami, non. Je vous estime et je vous admire trop pour être jamais malheureuse avec vous. Et puis, je vous dirai, je crois bien que rien ne pourrait me rendre tout à fait malheureuse à présent. J'ai vu trop de choses. Je suis devenu philosophe. Mais, à parler franchement, n'est-ce pas, vous me le demandez, vous ne vous fâcherez pas. Eh bien, je connais ma faiblesse. Je serai peut-être assez sotte au bout de quelques mois pour n'être pas tout à fait heureuse avec vous. Et cela, je ne le veux pas, justement parce que j'ai pour vous la plus sainte affection. Et je ne veux pas que rien au monde puisse la ternir. Lui, tristement, oui, vous dites ainsi, pour m'adoucir la pilule. Je vous déplais. Il y a des choses en moi qui vous sont odieuses. Mais non, je vous assure, n'ayez pas l'air si penaud. Vous êtes un bon et cher homme. Alors, je ne comprends plus. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous convenir? Parce que nous sommes trop différents, d'un caractère trop accusé, tous deux, trop personnel. C'est pour cela que je vous aime. Moi aussi, mais c'est aussi pour cela que nous nous trouverions en conflit. Mais non, mais si. Ou bien, comme je sais que vous valez plus que moi, je me reprocherai de vous gêner avec ma petite personnalité. Et alors je l'étoufferai, je me tairai et je souffrirai. Les larmes viennent aux yeux de Christophe. Oh, cela, je ne veux point. Jamais. J'aime mieux tous les malheurs plutôt que vous souffriez par ma faute, pour moi. Mon ami, ne vous affectez pas. Vous savez, je dis ainsi, je me flatte peut-être. Peut-être que je ne serai pas assez bonne pour me sacrifier à vous. Tant mieux. Mais alors c'est vous que je sacrifierai, et c'est moi qui me tourmenterai à mon tour. Vous voyez bien, c'est insoluble d'un côté comme de l'autre. Restons comme nous sommes. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que notre amitié? Il hoche la tête en souriant avec un peu d'amertume. Oui, tout cela, c'est qu'au fond, vous n'aimez pas assez. Elle sourit aussi, gentiment, un peu mélancolique. Elle dit avec un soupir, « Peut-être, vous avez raison. » Je ne suis plus toute jeune, mon ami. Je suis lasse. La vie use quand on n'est pas très fort comme vous. Oh, vous, il y a des moments, quand je vous regarde, vous avez l'air d'un gamin de 18 ans. Hélas, avec cette vieille tête, ces rides, ce teint flétri, je sais bien que vous avez souffert autant que moi, peut-être plus. Je le vois. mais vous me regardez quelquefois avec des yeux d'adolescent. Et je sens sourdre de vous un flot de vie toute fraîche. Moi, je me suis éteinte. Quand je pense, hélas, à mon ardeur d'autrefois. Comme dit l'autre, c'était le bon temps. J'étais bien malheureuse. À présent, je n'ai plus assez de force pour l'être. Je n'ai qu'un filet de vie. Je ne serai plus assez téméraire pour oser l'épreuve du mariage. Ah, autrefois, autrefois, si quelqu'un que je connais m'avait fait signe, eh bien, dites. Non, ce n'est pas la peine. Ainsi, autrefois, si j'avais... Oh, mon Dieu! Quoi, si vous aviez... Je n'ai rien dit. J'ai compris. Vous êtes cruelle. Eh bien, autrefois, j'étais folle, voilà tout. Ce que vous dites là est encore pis. Pauvre Christophe, je ne puis dire un mot qui ne lui fasse du mal. Je ne dirai donc plus rien. Mais si, dites-moi, dites quelque chose. Quoi? Quelque chose de bon. Elle rit. Ne riez pas. Et vous, ne soyez pas triste. Comment voulez-vous que je ne le sois pas? Vous n'en avez pas de raison, je vous assure. Pourquoi? Parce que vous avez une amie qui vous aime bien. C'est vrai? Si je vous le dis, ne le croyez-vous pas? Dites-le encore. Vous ne serez plus triste, alors? Vous ne serez plus insatiable? Vous saurez vous contenter de notre chère amitié? Il le faut bien. Ingrat, ingrat! Et vous dites que vous m'aimez. Au fond, je crois que je vous aime plus que vous m'aimez. Ah, si cela se pouvait! Ils disent là d'un tel élan d'égoïsme amoureux qu'elle rit. Lui aussi. Il insistait. Dites! Un instant, elle se tut, le regarda, puis soudain approcha son visage de celui de Christophe et l'embrassa. Cela fut si inattendu. Il en fut bouleversé d'émotion. Il voulut la serrer dans ses bras. Déjà, elle s'était dégagée. À la porte du salon, elle le regarda, un doigt sur ses lèvres, faisant « chut » et disparut. À partir de ce jour, il ne lui reparla plus de son amour, et il fut moins gêné dans ses relations avec elle. À des alternatives de silence guindé et de violence mal comprimée, succéda une intimité simple et recueillie. C'est le bienfait de la franchise en amitié. Plus de sous-entendus, plus d'illusions ni de craintes. Ils connaissaient chacun le fond de la pensée de l'autre. Lorsque Christophe se retrouvait avec Gracia dans la société des indifférents qui l'irritaient, quand la patience le reprenait d'entendre son ami échanger avec eux de ces choses un peu niaises qui sont l'ordinaire des salons, elle s'en apercevait, le regardait, souriait. C'était assez, il savait qu'ils étaient ensemble, et la paix redescendait en lui. La présence de ce qu'on aime arrache à l'imagination son dard envenimé. La fièvre du désir tombe, l'âme s'absorbe dans la chaste possession de la présence aimée. Gratia rayonnait d'ailleurs sur ceux qui l'entouraient le charme silencieux de son harmonieuse nature. Toute exagération, même involontaire, d'un geste ou d'un accent, la blessait comme quelque chose qui n'était pas simple et qui n'était pas beau. Par là, elle agit à la longue sur Christophe. Après avoir rongé le frein mis à ses emportements, il y gagna peu à peu une maîtrise de soi, une force d'autant plus grande qu'elle ne se dépensait plus en vaine violence. Leurs âmes se mêlaient. Le demi-sommeil de Gratia, souriante en son abandon à la douceur de vivre, se réveillait au contact de l'énergie morale de Christophe. Elle se prit, pour les choses de l'esprit, d'un intérêt plus direct et moins passif. Elle, qui ne lisait guère, qui relisait plutôt indéfiniment les mêmes vieux livres avec une affection paresseuse, elle commença d'éprouver la curiosité d'autres pensées et bientôt leur attrait. La richesse du monde d'idées modernes qu'elle n'ignorait pas, mais où elle n'avait aucun goût à s'aventurer seule, ne l'intimidait plus, maintenant qu'elle avait, pour l'y guider, un compagnon. Insensiblement, elle se laissait amener, tout en s'en défendant, à comprendre cette jeune Italie dont les ardeurs iconoclastes lui avaient longtemps déplu. Mais le bienfait de cette mutuelle pénétration des âmes était surtout pour Christophe. On a souvent observé qu'en amour, le plus faible des deux est celui qui donne le plus. Non que l'autre aime moins, mais plus fort, il faut qu'il prenne davantage. Ainsi, Christophe s'était enrichi déjà de l'esprit d'Olivier. Mais son nouveau mariage mystique était bien plus fécond, car Gratia lui apportait en dot le trésor le plus rare que jamais Olivier n'avait possédé, la joie. la joie de l'âme et des yeux, la lumière, le sourire de ce ciel latin qui baigne la laideur des plus humbles choses, qui fleurit les pierres des vieux murs et communique à la tristesse même son calme rayonnement. Elle avait pour allié le printemps renaissant. Le rêve de la vie nouvelle couvait dans la tiédeur de l'air engourdi. La jeune verdure se mariait aux oliviers gris d'argent. Sous les arcades rouges sombres des aqueducs ruinés, fleurissaient des amandiers blancs. Dans la campagne réveillée, ondulaient les flots d'herbes et les flots des pavots triomphants. Sur les pelouses des villas, coulaient des ruisseaux d'anémones et des nappes de violettes. Les glycines grimpaient autour des pins parasols, et le vent qui passait sur la ville apportait le parfum des roses du Palatin. Ils se promenaient ensemble, quand elle consentait à sortir de sa torpeur orientale, où elle s'absorbait pendant des heures, elle devenait tout autre. Elle aimait à marcher. Grande, les jambes longues, la taille robuste et flexible, elle avait la silhouette d'une Diane de Primaticcio. Le plus souvent, ils allaient à une de ces villas, épave du naufrage où la splendide Rome du Settecento a sombré sous les flots de la barbarie piémontaise. Ils avaient une prédilection pour la Villa Mattei, ce promontoire de la Rome antique, au pied duquel viennent mourir les dernières vagues de la campagne déserte. Ils suivaient l'allée de chênes dont la voûte profonde encadre la chêne bleue, la suave chêne albène qui s'enfle doucement comme un cœur qui palpite. Rangées le long du chemin, des tombes d'époux romains montraient à travers le feuillage leurs faces mélancoliques et la fidèle étreinte de leurs mains. Ils s'asseyaient au bout de l'allée sous un berceau de roses, adossés à un sarcophage blanc. Devant eux, le désert. Paix profonde, le chuchotement d'une fontaine aux gouttes lentes qui semblait expirer de langueur. Ils causaient à mi-voix. Le regard de Gratia s'appuyait avec confiance sur celui de l'ami. Christophe disait sa vie, ses luttes, ses peines passées. Elle n'avait plus rien de triste. Près d'elle, sous son regard, tout était simple, tout était comme cela devait être. À son tour, elle racontait. Il entendait à peine ce qu'elle disait, mais nulle de ses pensées n'était perdue pour lui. Il épousait son âme. Il voyait avec ses yeux. Il voyait partout ses yeux tranquilles où brûlait un feu profond. Il les voyait dans les beaux visages mutilés des statues antiques et dans l'énigme de leurs regards muets. Il les voyait dans le ciel de Rome, qui riait amoureusement autour des cyprès laineux et entre les doigts des lecci, noirs, luisants, criblés des flèches du soleil. Par les yeux de Gratia, le sens de l'art latin s'infiltra dans son cœur. Jusque-là, Christophe était demeuré indifférent aux œuvres italiennes. L'idéaliste barbare, le grand ours qui venait de la forêt germanique, n'avait pas encore appris à goûter la saveur voluptueuse des beaux marbres dorés comme un rayon de miel. Les antiques du Vatican lui étaient franchement hostiles. Il avait du dégoût pour ses têtes stupides, ses proportions efféminées ou massives, ce modelé banal et arrondi, ses gitons et ses gladiateurs. À peine quelques statues-portraits trouvaient-elles grâce à ses yeux. Et leur modèle était sans intérêt pour lui. Il n'était pas beaucoup plus tendre pour les Florentins blêmes et leurs grimaces, pour les Madones malades, les Vénus pré-raphaélites, pauvres de sang, phtisiques, maniérées et rongées. Et la stupidité bestiale des matamores et des athlètes rouges et suants, qu'a lâché sur le monde l'exemple de la Sixtine, lui semblait de la chair à canon. Pour le seul Michel-Ange, il avait une piété secrète, pour ses souffrances tragiques, pour son mépris divin et pour le sérieux de ses chastes passions. Il aimait d'amour pur et barbare, comme fut celui du maître, la religieuse nudité de ses adolescents, ses vierges fauves et farouches, telles des bêtes traquées. L'aurore douloureuse, la Madone aux yeux sauvages, dont l'enfant mord le sein, et la belle Lia, qui l'eût voulu pour femme. Mais dans l'âme du héros tourmenté, il ne trouvait rien de plus que l'écho magnifié de la sienne. Gratia lui ouvrit les portes d'un monde d'art nouveau. Il entra dans la sérénité souveraine de Raphaël et de Titien. Il vit la splendeur impériale du génie classique qui règne, comme un lion, sur l'univers des formes conquis et maîtrisées. La foudroyante vision du grand Vénitien, qui va droit jusqu'au cœur et fend de son éclair les brouillards incertains dont se voile la vie, la toute-puissance dominatrice de ces esprits latins qui savent non seulement vaincre, mais se vaincre soi-même, qui s'impose vainqueur, la plus stricte discipline, et sur le champ de bataille, savent parmi les dépouilles de l'ennemi terrassé choisir exactement et emporter leur proie, les portraits olympiens et les stanzés de Raphaël remplirent le cœur de Christophe d'une musique plus riche que celle de Wagner. Musique des lignes sereines, des nobles architectures, des groupes harmonieux. Musique qui rayonne de la beauté parfaite du visage, des mains, des pieds charmants, des draperies et des gestes. Intelligence. Amour. Ruisseau d'amour qui sourd des âmes et des corps de ces adolescents. Puissance de l'esprit et de la volupté. Jeune tendresse, ironique sagesse, odeur obsédante et chaude de la chair amoureuse, sourire lumineux où les ombres s'effacent, où la passion s'endort. Force frémissante de la vie qui se cabre et que dompte, comme les chevaux du soleil, la main calme du maître. Et Christophe se demandait, est-il donc possible d'unir, comme ils ont fait, la force et la paix romaine? Aujourd'hui, les meilleurs n'aspirent à l'une des deux qu'au détriment de l'autre. De tous, les Italiens semblent avoir le plus perdu le sens de cette harmonie que Poussin, que Lorrain, que Goethe ont entendu. Faut-il, une fois de plus, qu'un étranger leur en révèle le prix? Et qui l'enseignera à nos musiciens? La musique n'a pas eu encore son Raphaël. Mozart n'est qu'un enfant, un petit bourgeois allemand, qui a les mains fiévreuses et l'âme sentimentale, et qui dit trop de mots et qui fait trop de gestes, et qui parle et qui pleure et qui rit pour un rien. Et ni Bach le gothique, ni le Prométhée de Bonne, qui lutte avec le vautour, ni sa postérité de titan qui entasse Pélion sur Ossa et invective contre le ciel, n'ont jamais entrevu le sourire du dieu. Depuis qu'il l'avait vu, Christophe rougissait de sa propre musique. Ses agitations vaines, ses passions boursouflées, ses plaintes indiscrètes, cet étalage de soi, ce manque de mesure, lui paraissaient à la fois pitoyables et honteux. Un troupeau sans berger, un royaume sans roi. Il faut être le roi de l'âme tumultueuse. Durant ces mois, Christophe semblait avoir oublié la musique. Il n'en sentait pas le besoin. Son esprit, fécondé par Rome, était en gestation. Il passait les journées dans un état de songe et de demi-ivresse. La nature, comme lui, était en ce premier printemps, où se mêle à la langueur du réveil un vertige voluptueux. Elle et lui, ils rêvaient, enlacés, ainsi que des amants qui, dans le soleil, s'étreignent. L'énigme fiévreuse de la campagne ne lui était pas hostile. Il s'était rendu maître de sa beauté tragique. Il tenait dans ses bras Déméter endormie. Au cours du mois d'avril, il reçut de Paris la proposition de venir diriger une série de concerts. Sans l'examiner davantage, il allait refuser, mais il crut devoir en parler d'abord à Gratia. Il éprouvait une douceur à la consulter sur sa vie. Il se donnait ainsi l'illusion qu'elle la partageait. Elle lui causa cette fois une grande déception. Elle se fit expliquer bien posément l'affaire. Puis elle lui conseilla d'accepter. Il en fut attristé. Il y vit la preuve de son indifférence. Gratia n'était peut-être pas sans regret de donner ce conseil. Mais pourquoi Christophe le lui demandait-il? Puisqu'il s'en remettait à elle de décider pour lui, elle se jugeait responsable des actes de son ami. Par suite de l'échange qui s'était fait entre leurs pensées, elle avait pris à Christophe un peu de sa volonté. Il lui avait révélé le devoir et la beauté d'agir. Du moins, elle avait reconnu ce devoir pour son ami. Et elle ne voulait pas qu'il y manquât. Mieux que lui, elle connaissait le pouvoir de langueur que recèle le souffle de cette terre italienne et qui, tel l'insidieux poison de son tiède sirocco, se glisse dans les veines, endort la volonté. Que de fois elle en avait senti le charme maléfique sans avoir l'énergie de résister. Toute sa société était plus ou moins atteinte de cette malaria de l'âme. De plus fort qu'eux, jadis, en avait été victime. Elle avait rongé l'airain de la Louve romaine. Rome respire la mort. Elle a trop de tombeaux. Il est plus sain d'y passer que d'y vivre. On y sort trop facilement du siècle. C'est un goût dangereux pour les forces encore jeunes qui ont une vaste carrière à remplir. Gratia se rendait compte que le monde qui l'entourait n'était pas un milieu vivifiant pour un artiste. Et quoiqu'elle eût pour Christophe plus d'amitié que pour tout autre, osait-elle se l'avouer, elle n'était pas fâchée au fond qu'il s'éloignât. Hélas, il la fatiguait par tout ce qu'elle aimait en lui, par ce trop-plein d'intelligence, par cette abondance de vie accumulée pendant des années et qui débordait. Sa quiétude en était troublée. Et il la fatiguait aussi, peut-être, parce qu'elle sentait toujours la menace de cet amour, beau et touchant, mais obsédant, contre lequel il fallait rester en éveil. Il était plus prudent de le tenir à distance. Elle se gardait bien d'en convenir avec elle-même. Elle ne croyait avoir en vue que l'intérêt de Christophe. Les bonnes raisons ne lui manquaient pas. Dans l'Italie d'alors, un musicien avait peine à vivre. L'air lui était mesuré. La vie musicale était comprimée. L'usine du théâtre étendait ses cendres grasses et ses fumées brûlantes sur ce sol, dont naguère les fleurs de musique embaumaient toute l'Europe, qui refusait de s'enrôler dans l'équipe des vociférateurs, qui ne pouvait ou ne voulait entrer dans la fabrique, était condamné à l'exil ou à vivre étouffé. Le génie n'était nullement tari, mais on le laissait stagner et se perdre. Christophe avait rencontré plus d'un jeune musicien, chez qui revivait l'âme des maîtres mélodieux de leur race et cet instinct de beauté qui pénétrait l'art savant et simple du passé. Mais qui se souciait d'eux? Ils ne pouvaient ni se faire jouer, ni se faire éditer. Nul intérêt pour la pure symphonie. Point d'oreille pour la musique qui n'a pas le museau graissé de fer. Alors ils chantaient pour eux-mêmes d'une voix découragée qui finissait par s'éteindre. À quoi bon? Dormir. Christophe n'eût pas demandé mieux que de les aider. En admettant qu'il l'eût pu, leur amour-propre ombrageux ne s'y prêtait pas. Quoi qu'il fît, il était pour eux un étranger, et pour les Italiens de vieille race, malgré leur accueil affectueux, tout étranger reste au fond un barbare. Ils estimaient que la misère de leur art était une question qui devait se régler en famille. Tout en prodiguant à Christophe les marques d'amitié, ils ne l'admettaient pas dans leur famille. Que lui restait-il? Il ne pouvait pourtant pas rivaliser avec eux et leur disputer leur maigre place au soleil. Et puis le génie ne peut se passer d'aliments. Le musicien a besoin de musique à entendre, de musique à faire entendre. Une retraite temporaire a son prix pour l'esprit, quelle force au recueillement. À condition qu'il en sorte. La solitude est noble, mais mortelle pour l'artiste qui n'aurait plus la force de s'y arracher. Il faut vivre de la vie de son temps, même bruyante et impure. Il faut incessamment donner et recevoir, et donner et donner et recevoir encore. L'Italie, du temps de Christophe, n'était plus ce grand marché de l'art qu'elle fut autrefois, qu'elle redeviendra peut-être. Les foires de la pensée, où s'échangent les âmes des nations, sont au nord aujourd'hui. Qui veut vivre, doit y vivre. Christophe, livré à lui-même, eut répugné à rentrer dans la cohue. Mais Grazia sentait plus clairement le devoir de Christophe. Et elle exigeait plus de lui que d'elle. Sans doute parce qu'elle l'estimait plus. Mais aussi parce que ce lui était plus commode. Elle lui déléguait l'énergie. Elle gardait la quiétude. Il n'avait pas le courage de lui en vouloir. Elle était comme Marie, elle avait la meilleure part. À chacun son rôle dans la vie. Celui de Christophe était d'agir. Elle, il lui suffisait d'être. Il ne lui demandait rien de plus. Rien que de l'aimer un peu moins pour lui et un peu plus pour elle. Car il ne lui savait pas beaucoup de gré d'être dans son amitié dénuée d'égoïsme, au point de ne penser qu'à l'intérêt de l'ami, qui ne demandait qu'à n'y pas penser. Il partit. Il s'éloigna d'elle. Il ne la quitta point. Comme dit un vieux trouvère, l'ami ne quitte son ami que quand son âme y consent.